excusez-moi, je ne maîtrise pas l'anglais, je parlerai français et je vous prie, Victor Markovitch, de vous adresser à moi aussi en russe plutôt. Et tout d'abord, je dois dire que ma place dans le programme de ce colloque est un vrai guet-apens, non seulement par la rivalité avec Georges Dulac, et c'est tout à fait logique qu'une partie de la salle a déserté cette séance pour l'autre, et je vous remercie pour rester fidèle à moi, mais encore parce que je parle de cette correspondance mi-française, mi-russe, appelée plusieurs communications brillantes qui traitaient du même sujet, et j'écoutais en admirant et en tremblant parce que je craignais qu'on va me voler mes petits exemples. Mais on voit que tout de même, heureusement, le champ de la francophonie russe est assez vaste et on n'a pas besoin de jouer des coudes et toutes mes citations me restent. C'est une chose. Et pour vous mettre un peu en train, je commencerai par deux citations, peut-être qu'on peut dire que ce sont des épigraphes. Et donc l'une est tout à fait moderne, ne vous étonnez pas, c'est un collègue français qui m'a dit une fois, déjà une bonne dizaine d'années, mais je m'en souviens toujours. Il est venu de France en Russie et il m'a raconté toute une histoire des démêlés avec une dame à la douane, très peu sympathique, et on parlait français. Et tout à coup, il me sort... C'était une stirva. Et je garde dans ma mémoire ce « c'était une stirva » parce que ça, à mon avis, c'est vraiment l'exemple de ces passages non motivés. Parce qu'ensuite, je lui demande, « Eh bien, vous ne pouvez pas trouver un mot assorti pour la caractériser en français ?»« Ah non, ça n'est pas assez expressif. » Mais tout de même, j'ai assez d'estime pour la langue française pour penser que ce n'est pas tout à fait vrai. Mais il lui fallait, et il était, j'ai oublié de le dire, il est à peu près bilingue. Donc, il lui fallait c'était une stirva. Et ça, c'est une citation moderne. Et une autre citation est de Pouchkine, parce qu'on ne peut pas s'en passer. Donc, dans une lettre qu'on connaît très bien, mais on ne l'a pas encore citée, je crois, de 1822 à son frère Lev, il lui écrit, et donc, je parle français, mais je citerai, toutes mes citations sont mi-russes, mi-françaises, et tout de même pour montrer que ce sont les passages qui m'intéressent, donc je lis les citations en russe et en français, comme c'est écrit dans le texte. Donc il écrit, Pouchkine, « Как тебе не стыдно, мой милый, писать полурусское, полуфранцузское письмо? Ты не московская кузина. » Et donc, ce serait peut-être un sujet très intéressant, mais un autre, pas le mien, d'analyser de vraies lettres des московские cousines, parce que c'est cousine de Moscou, il y en avait plusieurs. Mais lui, il parlait à son frère, qui n'était pas un littérateur célèbre, mais tout de même qui était une personne cultivée. Mais donc, il s'avère que parmi les hommes de lettres russes, ça c'est mon public et mon corpus, et c'est l'avantage pour moi que de ce petit cercle d'amis et de collègues, on peut dire, et on peut être sûr, qu'il maniait également les deux langues, et le français et le russe. Donc, si les cousines de Moscou, parfois peut-être, on peut émettre des hypothèses qu'elles ne connaissaient pas assez le français ou le russe. Donc, ces hommes de lettres dont je parlerai, ils connaissaient les deux langues. Mais tout de même, il leur fallait, de temps en temps, de passer du russe, parce que ce sont plutôt les lettres que j'analyse, ce sont les lettres russes où les auteurs passent au français. Donc, il s'avère qu'il y avait là, parmi eux aussi, une sorte de cousine de Moscou. Et donc, ce qui m'intéresse, ce sont justement les passages. Mon corpus, ce sont les lettres, comme j'ai dit, les lettres des littérateurs, donc Pouchkine, Vyazemsky, Alexandre Turgenev, dont la correspondance avec son frère Nicolas est un sujet à part, mais là je ne prendrai, comme j'ai dit, que des passages. Ensuite, Konstantin Batushkov, voilà, et les deux frères Bulgakov, Alexandre et Constantin, qui étaient les deux directeurs de poste, et qui s'écrivaient en russe, mais aussi avec des passages au français. Et j'ai tâché de faire une sorte de typologie ou une petite classification pour voir comment on peut expliquer ces passages aux Français. Et donc, je commencerai par les cas évidents et j'espère avoir la possibilité et le temps de venir jusqu'au cas inexplicable, à mon avis. Mais donc, les cas, je commence sans perdre le temps et je ne dirai pas, je dirai le date peut-être quand c'est important, mais je dirai que les auteurs des lettres et les destinataires, tout simplement pour économiser le temps. Donc, les cas tout à fait évidents, d'abord, ce sont les expressions figées françaises, comme « à propos », et pourtant, Vyazemsky a inventé une fois dans une lettre russe l'épithète russe « à propos », Il l'a dit de la grand-duchesse Hélène et Léopold, à propos. Donc, à propos, ce serait le cas de dire, en petit comité, en famille, et pour cause, c'est tout dire, on y soit qui mal y pense, comme de raison, pas si bête, oh ma bonne fortune, restriction mentale, formule des jésuites. Je le laisse faire à la longue. Ça, c'est très fréquent. C'est, on peut l'expliquer très bien. Ensuite, viennent les citations des œuvres classiques. Comme, et ce sont les citations qui se répètent souvent. Et voilà comment on écrit l'histoire, bien sûr, de Voltaire. Les sots sont ici bas pour nos menus plaisirs, et des protégés si bas, des protecteurs si bêtes, le Creuset. Que diable a-t-il faire dans cette galère de Molière? Cet oracle est plus sûr que celui de Calras de Racine. Hilary, il est désarmé de Pyrrhon. Ainsi de, les plats réchauffés ne valent jamais rien, de Boileau, de Lutrin. Seulement, chez Boileau, ce ne sont pas les plats, mais le dîner. Donc ça aussi c'est évident. Il y a les citations tirées non seulement non des œuvres classiques littéraires, mais je dirais de l'histoire politique récente. Par exemple, Vyazemsky qui écrit à Alexandre Turgenev en 21, il parle de l'impératrice de Russie, Elisabeth, et il la nomme, la lettre est russe, mais il la nomme en français le seul homme de la famille. Et on connaît l'expression, c'est Napoléon qui l'a dit de la duchesse d'Angoulême, qui était la seule à organiser la résistance pendant les 100 jours. Ou, bien sûr, quand Vyazemsky évoque Lafayette, dans une lettre russe, il le nomme en français le héros des deux mondes. Ça, c'est compréhensible. Mais il y a aussi une citation intéressante de Vyazemsky. Ça se passe, la date, ici la date est importante. C'est le 1 et le 13 du nouveau style, juin 1830. Et il écrit à sa femme, et Nina Dmitrieva a déjà cité ses lettres de Vyazemsky, mais pas celle-là. Il parle de la cantatrice Zontak, devenue comtesse Russie, et je cite Vyazemsky. On dit qu'elle est étourdissante. Что же ты рот раскрыла и уши распустила? Ce mot d'étourdissante t'a étourdi. Итак, знай же, что по законам модного парижского света слова «toutes les admirations», «toutes les impressions», «tout se résume», «tout se résout par étourdissant». Or, tout ceci, il ne l'a pas inventé, il se vante un peu devant sa femme, mais tout cela, c'est une citation exacte de l'article de Balzac, Les mots à la mode, qui est publié dans La Mode le 22 mai 1830. Donc, 3 semaines n'ont pas passé, que déjà elle a reçu La Mode, et il la cite, comme ça. Ensuite, donc, j'ai parlé des citations. Ensuite, bien sûr, il y a tout ce qu'en russe, il y a le mot réal et que les Français me disent que c'est difficile de le traduire. Donc, tous ces réals, c'est-à-dire les choses du monde matériel qui ont les noms en français, mais dont les nominations n'existent pas encore en russe. Par exemple, Alexandre Bulgakov, quand il raconte en 1818 sa visite au cabinet du Sire de Saint-Pétersbourg, dans une lettre russe, il passe au français et c'est compréhensible parce que le cabinet du Sire était venu emprunter de France. Il y a des mots comme Bévue, par exemple. Pouchkine demande à son correspondant comment traduire la revue de Bévue, tout simplement parce que le mot n'existe pas. Et d'ailleurs, il y a là les mots qui, jusqu'à présent, posent des problèmes aux traducteurs. Par exemple, le remplissage poétique, remplissage est en français, urbanité, ou homme de parti, là, Vyazemsky écrit Turgenev, et c'est tout à fait injuste, mais la citation est très bonne. Из добряка захотел ты сделаться un homme de parti. Ah, un homme de parti, есть человек сухой, черствый, односторонний, который заколотил, замазал в себе все отверстия, через которые веяло на него полная общая жизнь, а провернул дырочку и глядит из нее и себя показывает. Avec ces mots français qui n'ont pas d'équivalent dans la langue russe, non pas encore, ou toujours, il y a, j'ai toute une collection d'exemples précieux pour un traducteur d'aujourd'hui, que je suis un tout petit peu. Quand les auteurs des lettres russes, dans les lettres, ils hésitent entre variantes et ils proposent leurs traductions qui ne sont pas encore entrées dans la langue. Par exemple, ça c'est Alexandre Turgenev à Vyazemsky, en 42. Но мало-помалу Франция обязана будет отказаться от теперешней системы de protection, entre parenthèses. Как сказать, покровительство или предпочтение? Point d'interrogation. Le roman de 32 de l'écrivain Бегичев, семейство Холдских. Все тонкости славной науки прожорства. Нельзя, кажется, на русском языке найти равносильнейшего и приличнейшего перевода для слова гастрономии. Je regrette toujours que ce n'est pas entré dans la langue. Pagodin, dans Moskvitianin, c'est son livre qui traite de son voyage en France, «Год в чужих краях». Hôtel de ville, entre parenthèses, «Панашему городская дума», point d'interrogation. Là, j'adore. C'est Smirnov Rasset qui, dans ses mémoires autobiographiques, raconte sa conversation avec son amant, Nicolas, le comte Nicolas Kisilov. Et, je cite, et il lui dit: «Я не люблю этого слова «любовница». Любовница мне представляется всегда какой-нибудь нечесанной дуняшкой, которая валяется с каким-нибудь метрошкой. Я предпочитаю слово «maîtresse». Et lui le répond: «И я тоже. Это доказывает, что любящее сердце находит свою половинку в обожаемой женщине, как я, например». Et il y a une lettre à cet article de 51. Tchadaev écrit à Joukovsky à propos de la tournée des spectacles de Fanny Elsler, la ballerine célèbre, et des articles admiratifs qui lui sont consacrés. Je cite: «Я назвал всю эту дурь», c'est l'admiration, «le culte du jarret», и спрашивал Растопчину, как это выражение перевести по-русски. Но она не сумела. «Le culte du jarret», c'est très difficile de traduire en russe. Et je termine par la citation de par Henri Vandier, de notre collègue Alexandre Stroyev, Vladimir Stroyev, qui a écrit un livre admirable sur Paris en 1838 et 39. Je cite: «В каждом маленьком театре надо бы делать хвост», entre parenthèses, «faire la queue». Donc ça, c'était pour expliquer comment mes auteurs essayaient de traduire. Ensuite, je continue ma petite typologie. Il y a bien sûr les faits liés avec la sphère basse de l'organisme qui sont difficiles à expliquer en russe, mais plus faciles peut-être en français. Donc, quand dans une lettre complètement russe, Konstantin Batyushkov parle de la maladie de Joukovsky, il passe au français et il dit, dans la lettre russe: «Un mal affreux s'est emparé de son derrière. Le médecin l'a menacé d'un coup d'apoplexie et lui a donné force lavement». Et ensuite, il continue en russe. Вяземский à sa femme: «Как же сделать, чтобы похудеть тебе? Ne pourrais-tu pas faire au moins une fausse couche?» Et ensuite, Вяземский à Тургенев, Alexandre: «Прости, не забывай моих просьб, et потому перечти письмо мое на судне, à tête reposée et à cul reposant». Et là, nous passons déjà au domaine de Colombourg, parce que le même Вяземский lui a écrit aussi à Tourguenev, cette même année 22. «Ты похож на того curé, который в каком-то романе Пиго Лебрун исключал из слов похабные слоги и говорил: „Je suis temps pour être content“». Donc, j'ai dit que nous approchons de la sphère des calembours, et bien sûr, le français est beaucoup plus approprié à cela. Et Alexandre Bulgakov, par exemple, écrit en 1830 à son frère Constantin: «Лучше всего писать по-французски, так еще и каламбурчик подвернется». Et donc, les calembours, je ne peux pas les citer tous, mais peut-être les meilleurs. Par exemple, Вяземский écrit en 1819 à Tourguenev, on le soupçonnait qu'il était, ensuite je cite, «что я так толерант, что он», Толстой американец, «почти подозревает меня на деле быть толерант», то есть, разумеется, фальшивым и скрытным. Je sais qu'il y a plusieurs variantes de la prononciation du mot du diplomate célèbre, mais ici, il faut, donc il prononçait толерант dans ce cas-là. Ou une autre chose, c'est aussi Вяземский, mais 20 années plus tard, il parle de tiers. «У французов памфлеты и журналы суть ступени к правлению. На что это похоже? On a voulu faire un gouvernement à bon marché, et on a fait un gouvernement de bon marché. Tiers, ni что иное, как bon marché нашего времени». Donc je passe, je saute les calembours. Ensuite, il y a bien sûr les cas où l'auteur commence à parler russe dans la lettre, mais ensuite, quand il parle d'une sphère de vie et une sphère peut-être d'idées qui est complètement française, donc il passe au français, normalement, par exemple, le même Вяземский commence à parler des modes, en quelque sorte, j'anticipe la séance de demain. «В употреблении ли у вас широкие панталоны с башмаками? Это, по мне, один из важнейших шагов нашего века. В Европе штаны надеваются при одном мундире». Et ensuite, bien sûr, il continue en français: «Il faut de la libéralité jusque dans la mise, vive le 19e siècle, malgré tout ce qu'on en dit. Et c'est cependant aux sans-culottes que nous devons nos larges pantalons. Mais dire de la Révolution française à l'heure qu'il est, c'est me dire en Égypte des débordements du Nil. Certainement, ceux qui se sont trouvés au bord du fleuve ont eu pour le moins les pieds mouillés, mais aussi, quelle riche récolte pour ceux qui sont venus après. Et ensuite, il revient aux Russes. Les autres, Bulgakov, ça, il parle de en 1832, de l'attentat contre Louis-Philippe et de la situation politique en France. Здесь только и речь, что о Берийской. Мало говорят о выстреле по Филиппе, коего царства никто прочным не полагает. Речь его довольно ничтожна. Наделал он много со своей «Глориоз революцион». C'est cette glorieuse révolution qui lui annonce ce glorieux coup de pistolet. Oh, c'est que je meurs. Donc, ce que je prédis. Mais là, ensuite, tout de même, on a parlé, et Vladimir a parlé, de la difficulté de savoir quelle était la sphère orale. Donc, ces lettres-là, quand l'auteur, un jour, ou peut-être le soir du même jour, raconte la conversation, et il passe du russe au français, là, on est à peu près sûr qu'on a une sorte de parole congelée et fondue rabelaisienne, une sorte de magnétophone avant la lettre. Et par exemple, le même Bulgakov, il décrit, là il y a des scènes très idylliques, c'est la visite de l'empereur Nicolas à Moscou en 1931. Et donc là, on voit que, bien sûr, Nicolas Ier, on sait qu'il faisait beaucoup pour russiser, si on peut dire, la langue et la vie de cour. Et il y a, on le sait du même Bulgakov, les phrases, on les cite toujours, « Мы живем ладно со своей старухой », donc il parle de l'impératrice, Alexandra, en bon russe. Mais là, dans ces lettres, on voit que c'était un parler mi-russe, mi-français, et que Nicolas changeait la langue très facilement. Et par exemple, je cite, pour faire plus court, là, c'est l'empereur Nicolas qui parle avec la fille de Bulgakov, Olga, très jeune, mais déjà mariée. Votre mari a l'air très jeune. On ne lui donnerait pas plus de 18 ans. Il en a 22, si. Хорошо делаете, Ольга Александровна, что настоите, чтобы он служил. Voyons, de quoi s'agit-il? Dites ce que vous désirez sans préambule, лишь бы от меня зависело. Et voilà comment il saute d'une langue à l'autre. Et pourtant, il y a beaucoup, beaucoup de citations orales de Nicolas en français. Mais tout de même, pour avoir... Ensuite, il y a des citations, des conversations orales explicites, et il y en a d'implicites. Par exemple, c'est un morceau connu, mais il est utile ici. Quand Pouchkin raconte à Vyazemski, dans une lettre de 1831, sa conversation avec le prince Yusupov, un vieux moscovite qui a beaucoup voyagé en France et en Europe, il raconte en russe, Он знавал Фанвизина, который несколько времени жил с ним в одном доме. C'était un autre bon marché pour la conversation. Он знает пропасть его bon mot. On peut comprendre, c'est la phrase de Youssouf française qu'il cite, et c'est pourquoi il parle français. Et il y a beaucoup de choses comme ça, par exemple, quand Bulgakov raconte en russe une représentation théâtrale à Moscou, et même une fois c'est une représentation de La vie du joueur qui est une pièce française, mais il raconte nous y étions смотреть Милославского на большом театре, c'est-à-dire Юрий Милославский, c'est le comble de la russité, si on peut dire. Он был, ездили смотреть на Большом театре, он был совершенно полон, он осознал avec enthousiasme toutes les allusions, surtout lorsqu'il s'agissait d'attachement au souverain et d'amour pour le pays. Сашка мой, c'est son fils, так и прыгнул на стуле. Я рад был видеть у него не раз слезы на глазах. Donc je crois qu'il passe au français parce que les dames, par exemple, au théâtre, parlaient français, et donc, comme un magnétophone, il nous le cite. Et je termine. Et donc, je termine par ce que j'ai promis de faire, les phrases inexplicables, parce que en principe, nous tous, à mon avis, nous expliquons ad hoc, c'est-à-dire nous voyons le contexte et nous tâchons de trouver quelque chose d'approprié. Mais il y a, à mon avis, plusieurs exemples où il est impossible de trouver quelque chose. Par exemple, Batushkov, il parle d'une certaine princesse qui va se marier avec un homme, et donc tout cela est en russe. Баранов женится на княжне Несвицкой. И тут аку. Il ne faut pas ébruiter cela. Невеста не дурна собой, я с ней у него обедал в день его рождения. Pourquoi il ne peut pas dire cette phrase? Mais on ne peut pas croire que Batushkov ne pouvait pas trouver une phrase appropriée pour dire il ne faut pas ébruiter cela. Ou par exemple, Bulgakov raconte aussi, on reste dans le domaine des mariages. Но молодого Шереметьева скалили зубы и пялили глаза нашей мамзели. Но он только показался и, не танцевавши, уехал. Наши кумушки выдумали уже, что Шепелев для того и бал давал, чтобы дочь за него выдать. Он dirait qu'il ne faut pour cela qu'un bal. impossible de t'expliquer. Tout simplement parce qu'il voulait le dire en français sans aucune raison. Ou une autre histoire du même Bulgakov, on s'est trompé entre une princesse Vyazemskaya vieille et jeune. Il raconte tout cela en russe, ensuite il dit, il fallait voir les rires de la princesse, la jeune. Et ensuite en russe, я думал, что дурно сделается, и пошла всем рассказывать сама. Donc ce sont vraiment des choses intercalées sans aucune raison évidente, et j'en ai plein. Mais peut-être que je finirai par une où c'est l'empereur, encore une fois, qui parle, ou peut-être non, parce que c'est trop difficile d'expliquer. Voilà, Vyazemskaya Turgenev en 37. Il s'agit de l'atmosphère littéraire à Moscou et à Pétersbourg. La lettre, toute la lettre est russe, et il parle de l'atmosphère intellectuelle. Мне очень жаль Баранта, который здесь нет, l'ambassadeur de France, который потерял здесь несколько процентов своей интеллектуальности. То есть, en russe. Вот в этом отношении, как высоки были Карамзин и Дмитриев. Et on s'attend à la continuation russe. Non. Ils étaient avant tout hommes de lettres, везде и всегда, куда ни переносила их судьба. Donc, quoi, Vyazemskaya n'était pas capable de dire ils étaient avant tout hommes de lettres pour Karamzin et Dmitriev en russe? Non, je ne le crois pas. Mais je crois que, comme dans une charade, mon premier était positif, mon second était négatif, et ma conclusion, mon tout est agnostique. Donc, il y a des cas, et il y en a plusieurs, où nous pouvons expliquer le passage du russe au français, et tous ces passages sont précieux pour le chercheur. Mais il y a des cas où la science reste muette. Et sur cette conclusion, qui peut-être est assez triste, je termine et je vous remercie pour votre patience.